D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Cela se passe à la quasi-extrémité occidentale de l'Europe. Une langue de terre, au bout de la Macédoine, en chalcidique, descend dans la mer Égée. On passe des endroits qui s'appellent Constamonite ou Pantocrator. On comprend bien qu'il s'agit de religion. On continue. Au bout de cette péninsule d'une cinquantaine de kilomètres de long et de 10 de large, à plus de 2000 mètres d'altitude, une montagne, l'une des plus célèbres du monde. La Grèce peut se vanter d'en posséder deux. Celle-ci, le mont Athos. L'autre, plus à l'ouest, à la limite de la Macédoine et de la Thessalie, et c'est le mont Olympe. L'une passée pour être le séjour des dieux, l'autre est tenue pour le séjour de dieux. Sur le mont Olympe, les dieux de l'ancienne religion grecque panthéiste. Sur le mont Athos, le dieu de l'actuelle religion grecque orthodoxe. Ici, Zeus, là, dieu. Ici, une fanfare de dieux, là, un dieu unique. Ici, les dieux seuls, là, des moines. Au 7e siècle de notre ère, ils arrivent au mont Athos. L'empereur Constantin IV, Constantin le Barbu, leur fait don des terres. Les moines mènent une vie érémitique. En 963, le moine Athanase fonde le premier monastère, celui de la Grande Laure. Il meurt en l'an 1000, écrasé par la coupole de l'église qu'il était en train de construire. Voltaire, tais-toi, pas de plaisanterie. En 1060, l'empereur Constantin Monomaque interdit du mont Athos toute femme, toute femelle, tout enfant, tout eunuque et tout visage lisse. La règle est respectée depuis. En 2012, se trouvent au mont Athos 20 monastères où vivent environ 2200 moines. Il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Ce lieu célèbre ne l'a pas toujours été. Il a vécu pendant des siècles dans le recueillement. Au moment des premiers combats pour l'indépendance de la Grèce, Lord Byron le mentionne, guère plus. Dans une note à son Don Juan, il dit qu'un sculpteur avait projeté de transformer la montagne en une gigantesque statue à la gloire d'Alexandre le Grand. Les Anglais qui accomplissent le Grand Tour à la fin du 19e siècle en font des descriptions. C'est au 20e, et grâce à des écrivains, que le mont Athos acquiert une renommée internationale. Mais qu'est-ce que des écrivains vont chercher dans une communauté de moines orthodoxes? Je reçois pour en parler Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point et auteur en 2002 d'un roman sur le mont Athos, interdit à toute femme et à toute femelle. Christophe Onodibio, physiquement, à quoi est-ce que ça ressemble le mont Athos?
Un paradis terrestre, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé, 50 km de long, escarpé, avec donc des petits vallons, une herbe magnifique, des cours d'eau, des forêts très vallonnées, bordées par une mer absolument hypnotisante, évidemment ensoleillée, des petites plages de galets où il est très agréable de se baigner. Et au sud, donc, le mont Athos, qui donne son nom à la péninsule et qui, en fait, tombe donc sur son côté sud, directement dans la mer. Et c'est là qu'on trouve d'ailleurs les ermites du mont Athos, dans un endroit qui s'appelle Cafso Calivia, qui se trouve donc sur les flancs de son mont Athos, et là directement vers la mer. Mais donc vous avez la montagne. On appelle cet endroit le désert, Eremos en grec, d'où vient le nom ermite. Mais sinon, vous avez aussi des endroits très très agréables, bordés de plages. C'est un paradis sur terre.
Dites-moi, Christophe Onodibio, comment se rend-on sur le mont Athos? Est-ce que je peux...
C'est une question administrative ou pratique? Parce que les deux sont intéressants.
Les deux.
Administrativement, il faut un permis spécial, qu'on appelle le diamonitirion, qui est une très jolie feuille qui ressemble à un parchemin, qui est frappé du sceau de la Vierge, puisque l'autre nom du mont Athos, c'est le jardin de la Vierge. Quand elle était en chemin... avec un évangéliste, elle a essuyé une terrible tempête, la Sainte Vierge, et elle a trouvé cette terre absolument magnifique qu'elle s'est accaparée. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une autre explication. Aucune autre femme doit pénétrer sur le mont Athos, car c'est le domaine de la femme par excellence, la Vierge Marie. Donc il faut ce diamonitirion qu'on obtient dans un bureau du mont Athos à Salonique, une sorte de consulat du mont Athos. Et donc, je vais vous parler de la Vierge. Il y a un sceau magnifique qui présente la Vierge écartant la montagne du mont Athos, sortant de la montagne. Très joli tampon qui vient valider ce permis.
Pardon de vous interrompre, oui. Il faut aller chercher ça à Salonique. Il n'y a pas de représentation du mont Athos dans les pays...
Non, il faut aller là-bas, dans le bureau de la Sainte Montagne, à Gianoros. Et l'autre détail, vous avez parlé d'une presqu'île, Donc une presqu'île, on pourrait a priori entrer par la terre. Mais non, le mont Athos est en fait administrativement une île, puisqu'il y a un grillage qui empêche l'entrée par la terre. Donc on y va en bateau, depuis une petite ville qui s'appelle Ouranopoli, c'est-à-dire la ville du ciel. Et il est très intéressant de voir que souvent, puisque les Grecs y vont en pèlerinage, donc les femmes, les mères, les sœurs laissent partir leurs hommes et leurs fils par le bateau qui longe la côte et qui livre sa cargaison de pèlerins à chaque monastère. Donc on ne peut pas entrer sur le mont Athos par la terre. En fait, ce grillage avait été dressé pour empêcher que les... Évidemment, comme c'est interdit à toute femme et à toute femelle, il ne faut pas que quelques agnels traversent et aillent déranger la quiétude des moines.
Est-il vrai que pour se protéger ou pour quelque autre raison, les moines du mont Athos limitent le nombre de visites par jour, et non seulement en fonction d'une quantité globale, mais aussi en fonction des religions, c'est-à-dire qu'un certain nombre de non-orthodoxes est permis seulement, c'est vrai?
Oui, d'ailleurs, sur ce Diamonitérium, vous devez déclarer votre religion. Et il vaut mieux n'en avoir aucune.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous dites que vous êtes catholique?
Non, mais ils espèrent toujours pouvoir vous convertir.
Je disais que vous avez écrit un roman interdit à toute femme et à toute femelle sur le mont Athos. Quand y êtes-vous allé, Christophe Onedibio, pour la première fois? Et quelle était votre motivation?
J'y suis allé en 1999. Je suis passionné par ce qu'on appelle les zones grises, par exemple quand vous allez sur Google Maps. C'est-à-dire que des pans entiers sont sans indication. Le mont Athos, par exemple, vous pouvez aller vérifier. Le troisième doigt donc, de cette chalcidique, hein, cette espèce de... Ça forme comme des... Vraiment trois doigts qui plongent dans la mer. Vous n'avez rien sur le mont Athos, c'est gris. Et je voulais aller voir ce lieu, donc, puisque c'était une zone grise. J'aime aller voir ce qui n'apparaît pas distinctement. Et puis j'avais aussi... je m'intéresse beaucoup à Byzance. Vous savez, j'ai mis à l'orée de mon livre une phrase que je trouve très belle.
Autant dire un épigraphe, un mot grec.
Exactement, épigraphe. Vois-tu cette montagne, disait un Turc à un autre. Les hommes y meurent toujours et n'y naissent jamais. Donc je voulais aller voir ce pays où les hommes meurent mais ne naissent pas. On m'avait dit, tu verras, ils se prennent pour des anges. Alors je voulais aller voir cette étrange contrée où les hommes sont barbus et se prennent pour des anges. Et je me suis dit que ça ferait un formidable lieu d'exploration à la fois de la zone grise et de moi-même qui suis une
de
zone grise.
De votre zone grise.
Exactement.
Nous allons entendre l'écrivain qui, en France, a sans doute le plus contribué à la célébrité du mont Athos. Il s'agit de Jacques Lacarrière, il nous raconte son séjour là-bas, c'était en 2002, dans Les Vivants et les Dieux.
D'abord, au mont Athos, quand j'y étais, il n'y avait pas un moine sur 10 qui savait lire. C'est moi qui leur lisais les évangiles. Ils me disaient, il y a quoi sur ce livre dans la bibliothèque? Je dis, ben, vous voyez bien, c'est l'évangile selon saint Matthieu. Alors, le bibliothécaire savait lire, mais il ne savait pas lire, ce sont des enfants de pêcheurs, de paysans, parce que la tradition voulait, quand une famille avait 10 enfants, le 11e, il partait directo au mont Athos dès l'âge de 7-8 ans, parce qu'on n'avait pas de quoi le nourrir. Vous voyez, tout ça est très très prosaïque. Et la plupart des moines, donc, étaient des moines, ils disaient, on est comme les apôtres, c'est des pêcheurs, ils n'avaient pas lire non plus. Et nous, on ne sait pas lire, ils en étaient très fiers. D'ailleurs, un ermite, là, dans sa grotte, m'a dit, il n'y a que deux choses qui comptent, c'est les mains et le cœur. Le cerveau n'en a pas besoin. Donc, vous voyez, il y a une tradition aussi apostolique de l'apôtre qui est celui qui a transmis l'essentiel sans avoir besoin de culture. Mais eux ne transmettent pas, évidemment, ils sont là. Et c'est assez impressionnant. Il y a quelquefois des moments où, surtout dans ces grottes d'ermites, j'ai eu l'impression, effectivement, d'être vraiment hors du temps et de rencontrer de ces gens qui devaient entourer le Christ, qui devaient entourer les prophètes de cette époque. C'est-à-dire des gens sortis de la terre ou de la mer, enfin des pêcheurs, des artisans, des gens qui passaient leur temps à travailler de leurs mains, et puis en même temps qui sont capables d'écouter une parole. Mais ce qui leur permet de suivre celui qui parle, c'est parce que d'abord, ils sont des hommes, ce que dans les évangiles on dit les simples en esprit, hein, pas les simples d'esprit bien sûr. Et le mont Athos était fait très souvent de gens comme ça, ce qui a toujours déconcerté les grands savants byzantinologues qui venaient travailler au mont Athos.
Alors Lacarrière, on pense souvent à l'été grec qui date de 1976, parce que ça a été un grand succès, mais en fait il a écrit le premier livre de l'après-guerre sur le mont Athos, ça s'appelle « Mont Athos, montagne sainte » en 1954. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce qu'a apporté Lacarrière et comment croyez-vous qu'il a contribué à cette renaissance
Bah, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que le mont Athos n'a pas été un endroit très, très exploré, quoi. C'est pas Jérusalem, c'est encore moins Rome. Quand je pense à la carrière, je l'entends marcher, j'entends son pas sur les rochers. J'ai beaucoup pensé à lui quand je marchais. On marche beaucoup sur le mont Athos. Vous marchez, c'est 50 km sur 10, c'est-à-dire on est à 500 km carrés, si je ne m'abuse. C'est très physique, ces moines travaillent, marchent énormément. Il y a une tradition dans l'orthodoxie des moines gyrovagues, vous savez, qui marchent, qui se perdent, qui errent, des moines errants. Et c'est un lieu, oui, où on marche beaucoup. C'est un lieu lacarriéresque.
Eh bien, la carrière, en parlant des moines, il y a une chose qui ne cache pas, parce qu'il n'est pas, il a porté ça à notre connaissance, mais sans du prix, si je puis dire, c'est que dans tous ses livres, et même dans Chemin d'écriture, qui est un livre plus récent, il parle très souvent de la superstition des moines. Je voudrais citer une phrase de lui. Il dit « Il croit dur comme fer à toutes les fables et légendes venues du paganisme ou du monde hébraïque ». C'est-à-dire qu'il y a aussi une énorme part de superstition là-dedans.
Oui, et puis on parle beaucoup des démons. Oui. Vous savez que le mal dont souffrent les moines, et c'est encore plus valable sur le mont Athos, puisque c'est un mot grec, c'est l'acédie, l'akédia, l'absence de désir. C'est-à-dire quand les démons viennent vous visiter, alors il y a les visites, disons, sensuelles des démons qui font vaciller votre chair et qui parfois vous font vous épancher sensuellement pendant votre sommeil. Mais il y a aussi la pire des tentations, c'est cette acédie, c'est-à-dire l'envie de rien, une sorte de dépression monastique. Et c'est vrai que les moines parlent tout le temps des démons. Et vous avez ce motif surtout, c'est généralement dans les réfectoires des monastères, vous avez l'échelle de Saint-Jean-Climac, l'échelle de Jacob. Donc Saint-Jean-Climac qui a écrit un merveilleux texte là-dessus, où on voit le moine qui essaie de s'élever degré après degré sur une échelle qui le mène au paradis, et les démons qui s'accrochent à lui, qui essaient de le faire trébucher. Certains tombent quand ils sont trop faibles. C'est un lieu effectivement où l'on parle beaucoup de superstition. Effectivement. Et la femme est l'un de ces démons, évidemment.
La femme, mais il y a aussi d'autres démons. Je voudrais parler d'un autre écrivain qui a beaucoup compté pour le mont Athos, qui est François Augiéras, qui n'est peut-être pas le plus connu, mais qui est un écrivain qui, si je puis employer cette expression un peu stupide à propos du mont Athos, mais qui est culte, et dont les dates sont 1925-1971. Il a écrit un bon livre qui s'appelle Un voyage au mont Athos. Il y est allé un an après la première visite de la carrière, d'ailleurs en 1954, même si son livre a été publié après. Et je voudrais lire un bref passage de Augiéras qui raconte ce qui se passe dans un monastère où il se recueille. « J'allais revenir à mon lit lorsque ma porte s'ouvrit lentement, toujours davantage, jusqu'à laisser paraître une ombre. Elle s'approcha de moi. Une puissante odeur de crasse pénétrait avec elle. Lorsque l'ombre fut à deux pas de la fenêtre, je vis que c'était un des moines que je n'avais qu'entrevu dans l'église. Hirsute et sale, il venait du clan des crasseux et des simples. » Comment était-il arrivé jusqu'à ma chambre? Je voyais mal sa figure embroussaillée de poils gris, deux yeux luisants me fixaient intensément. Sans un mot, me prenant par la taille, il m'arracha du rebord de la fenêtre et me jeta sur mon lit. Me défaisant de mes habits, je lui donnai sans plus tarder toutes les espérances quant au plaisir qu'il voulait prendre en moi. Donc, voilà des moines qui sont bien peu sages, et voilà quand même une sexualité un peu débridée dans un endroit où normalement on ne va pas pour ça. Et voilà un secret que nous révèle Augiéras, non?
Exactement. Quand j'écrivais, je faisais dire, vous voyez, je suis à la page 109 de Interdit à toute femme, où justement, puisque le héros est parti sur le mont Athos, et deux de ses amis veulent essayer de le retrouver, parce qu'ils sont très inquiets, ils tombent sur le texte d'Augiéras, où effectivement, on a ça aussi. Sa robe sentait la crasse et la vieille marmite, sa barbe rêche me grattait le petit trou de l'oreille, il cessa soudain de me murmurer que j'étais désirable, pour épier attentivement l'obscurité. Et je continuais, suivait une évocation extrêmement lyrique où le jeune pèlerin se saoulait de volupté dans une exaltation érotique de la charité chrétienne, avant de laisser le moine, je cite Augiéras, rassembler ses voiles noires, boucler son ceinturon de cuir et ajuster quelques plis.
Il y a d'ailleurs d'autres scènes, hein, il n'y a pas
oui,
que cette scène de
exactement,
sexe-là.
Exactement, Augiéras, c'est vrai que c'est culte, comme vous le rappeliez, c'est quand même, c'est culte et kitsch. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de... Augiéras est là, il a l'impression d'accomplir le voyage des morts, d'arriver dans cette espèce de contrée maléfique où la charité chrétienne, oui, se manifeste en termes érotiques. Le don de soi va très loin. Voilà, j'ai pas fait cette expérience-là. Je ne vais pas vous dire malheureusement, mais c'est-à-dire pour... voilà.
Y a-t-il d'autres monts Athos ? Attire-t-il les écrivains ? Camille Renard s'est rendue à l'ancienne abbaye cistercienne de Laprès, propriété des Petits Frères des Pauvres, où l'association Pour que l'Esprit vive organise en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts de Paris une résidence d'artistes. Environ 6 artistes de toutes les disciplines y séjournent plusieurs mois pour écrire, dessiner et composer. Voici un reportage sur la rencontre entre le recueillement et la création.
Donc le portable passe ?
Il passe par là. Et il passe étrangement là où on fait sécher notre linge, là où il y a les cordes à linge là-bas. Donc quand vous faites votre lessive, ne pas oublier d'emmener votre portable si vous voulez avoir des nouvelles du monde.
Erwan Larrère, vous êtes écrivain en résidence ici depuis octobre 2011.
Ouais, c'est ça, après un premier passage. Alors. Attends, la pièce secrète. J'adore cet endroit un peu caché. On croit toujours que la porte est fermée, donc... Et en fait, pas du tout, elle est juste très dure à ouvrir.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, personnellement, dans votre démarche artistique, dans cette abbaye ?
En fait, l'écriture, c'est des temps longs. Donc on a besoin de calme, on a besoin de concentration, on a besoin de discipline. Enfin, en tout cas, dans l'écriture telle que je me la représente comme discipline. Et quel meilleur endroit qu'un lieu comme ça, retiré du monde. Moi, j'ai pas de connexion Internet, j'ai pas la télévision. Bon, ça fait plusieurs années, mais Internet, c'est très pernicieux parce que on va chercher des informations et puis d'un coup, on se dit ah bah oui, je vais aller voir mes messages. Ah bah oui, je vais répondre à machin. Ah bah oui, puis on part sur des trucs complètement futiles. Et pourquoi pas, hein, je suis pas contre la futilité, mais c'est la futilité est quand même l'ennemi de la concentration. Donc là, rien de tout ça. C'est-à-dire, il y a le papier, le crayon, un peu l'ordinateur, et puis faut y aller, quoi. On n'a pas le choix. Et en même temps, voilà, c'est un endroit où on sent que... On sent le passage des hommes, on sent qu'il s'est... C'est pas anodin une abbaye, c'est pas anodin un monastère. J'étais en résidence d'écriture à Saorge, aussi dans un monastère dans les Alpes, qui est juste incroyable. C'est pas anodin que des hommes aient décidé de se mettre à l'écart de tout pour se consacrer à la prière, à la réflexion, à se tourner vers quelque chose de plus fort qu'eux, de quelque chose qui les transcende. Et moi, je considère un peu l'écriture comme ça. C'est quelque chose qui me transcende. C'est quelque chose qui est au-delà de moi. C'est quelque chose... C'est une quête. Donc voilà, dans un endroit comme ça, on se sent chargé, que ce soit dans le parc. On sait qu'il y a des moines qui sont enterrés dans le parc. On sait qu'il y en a qui ont été pendus sous cet arbre là-bas. On sait que là-bas, là où il y a la source, c'est là où ils allaient chercher leur eau. On ne sait pas ce qu'il y avait de construit, mais on sait qu'il y avait des choses de construites. Là, on a vu une pierre tombale, on sait qu'ils déambulaient là, qu'ils venaient prier ici, enfin, qu'ils ont été assiégés, qu'ils ont repoussé, qu'il y a des souterrains, que, enfin bon, voilà, il y a quelque chose de tellurique, c'est pas le mot, mais d'intense. Voilà.
Est-ce que vous arriveriez à déterminer en quoi cette intensité nourrit très concrètement votre travail d'écriture ?
Absolument pas. Absolument pas. En plus, je suis pas du tout croyant. À la limite, je suis un peu mystique, mais pas du tout. Mais après, c'est juste les forces, c'est juste la transmission. L'écriture, c'est de la transmission. Hein. C'est que ça. C'est ici, je suis arrivé la première fois. J'ai dit OK, d'accord, mais je vais rester là. Enfin, aussi longtemps qu'on voudra de moi, je resterai là, quoi.
Christophe Honodibion, il y a un autre écrivain qui est allé au Mont Athos, c'est Bruce Chatwin. Il a voulu, je crois, s'y rendre plusieurs fois à l'Athos, car je crois que tous ces gens qui y sont allés, moi je n'y suis pas allé, disent l'Athos, le Mont Athos.
C'est très chic. Nous allons ce week-end, Charles, partons pour l'Athos.
Partons pour l'Athos. Et il y est allé en 1985 et il dit, c'est Nicolas Shakespeare qui est son biographe qui dit ça, il dit que Chatwin, qui ne croyait à rien, qui n'était pas du tout religieux, a dit après quelques jours au Mont Athos, il doit y avoir un Dieu. Bon, alors évidemment, c'est aussi le moment où Chatwin savait qu'il avait le sida et quand on est malade, on se rapproche souvent d'un besoin de croyance. Mais est-ce que vous diriez qu'on va chercher à l'Athos ce qu'on a déjà trouvé ?
Non. Est-ce que Chatwin avait déjà trouvé Dieu ?
Non.
Il avait déjà trouvé certainement, il avait vu différentes formes de beauté. Moi, c'est vraiment la... vous savez, il y a un très beau texte, il faut le citer ici, très beau texte pour l'orthodoxie qui s'appelle La Philokalie, qui est un texte sacré. Philokalie, ça veut dire l'amour de la beauté. Et je pense que l'amour de la beauté mène à Dieu. Après, quel est le Dieu, on s'en fiche, peu importe.
Elle peut mener au diable aussi, ça peut être terrible l'amour de la beauté.
Elle peut mener au diable. Sur le mont Athos, il y a quand même assez peu de tentations. Diabolique. Les seules tentations qui existent sont des tentations célestes. Je vous parlais tout à l'heure de ces expériences dans ces petites églises, même la marche dans le mont Athos, la respiration, le fait d'aller demander l'hospitalité. Il y a quelque chose quand même qui vous attire, qui vous pousse du côté du bien. Moi, je ne suis pas baptisé, hein, je ne suis pas croyant, je ne suis pas athée non plus. J'ai une seule fois envie de me faire baptiser. C'était sur le mont Athos. Le fait que ça soit un baptême par immersion totale comptait beaucoup. Il y avait quelque chose de retrouver une sorte de puissance élémentale, d'une communion. C'est ça qui est très beau, c'est-à-dire que c'est un lieu où les constructions, je vous ai dit qu'elles étaient fortifiées, mais rien n'est laid sur le mont Athos. Même s'il commence malheureusement à bétonner et à faire des routes d'asphalte, où vous voyez maintenant quelques 4x4 dont les portières sont frappées aux armes des différents monastères.
Est-ce que ça va devenir comme le Tibet ? Est-ce que la Grèce va construire un train qui va arriver là-bas ? Est-ce que ça va être envahi par les autres ?
Je ne pense pas. Peut-être que la crise grecque va-t-elle forcer les portes des coffres-forts des monastères, puisque vous savez que les armateurs grecs ne payent pas leurs impôts, les monastères grecs non plus. Or, c'est bourré de trésors.
Mais d'ailleurs, on m'a dit que, et je voudrais en profiter de ça pour en venir au titre de votre livre et à la question de l'interdiction des femmes, que les femmes peuvent visiter le mont Athos à distance sur un bateau.
Tout à fait.
Et là, un moine vient et fait la visite et en profite pour vendre quelques souvenirs avec un petit côté lourd comme ça. Donc, l'argent n'est pas très loin non plus.
Ah non, mais l'argent n'est jamais loin quand il s'agit d'orthodoxie. Jamais. Bah, Byzance, souvenez-vous. Byzance et l'or, l'or sur les icônes, mais ça aussi, ça mène à la beauté et ça mène peut-être à Dieu. Je pensais, pour rester, vous parliez du paganisme, c'est que le mont Athos aussi était connu. Il y a plein de légendes sur le mont Athos. Vous avez rappelé la statue géante creusée dans la montagne pour figurer Alexandre le Grand. Il y a aussi, en fait, Athos aurait été un géant qui se serait élevé contre Poséidon et Poséidon lui aurait envoyé une grosse pierre sur la figure. C'est le mont Athos. Mais on disait aussi que le rival d'Orphée, qui s'appelait Tamiris, vivait sur le mont Athos. Donc cette beauté, elle n'est pas uniquement chrétienne, elle est aussi païenne.
Alors revenons-en à cette interdiction aux femmes. Vous avez parlé d'une autre légende, après tout, qui est la Vierge venant avec Saint Jean l'évangéliste. Je crois que la République du mont Athos a été reconnue par le traité de Lausanne en 1923, mais c'était bien avant l'Union européenne. Et comment, alors que l'Union européenne interdit... Par exemple, la mention des religions sur les papiers d'identité, comment une telle demande de visa ou de laissez-passer qui demande une religion peut se produire ? Est-ce qu'il y a eu des démarches contre le mont Athos auprès des institutions européennes ?
Il y a eu, mais c'est marginal. Oui, il y a eu, puisque vous n'avez pas le droit d'interdire un territoire à un genre, à un sexe. C'est absolument impossible. Vous pouvez le faire, je crois, à l'échelle d'un monastère. Les monastères de femmes ou d'hommes où les femmes ne rentrent pas. En Grèce, d'ailleurs, vous allez à Patmos, les femmes ne peuvent pas toujours rentrer dans certains monastères. Mais oui, il y a eu quelques tentatives. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a deux exceptions à cette règle. Bon, il y a les visagelistes, mais il y a aussi les poules.
Ah.
Parce qu'en fait, les œufs sont nécessaires pour la confection de la peinture pour les icônes. Certains, on a besoin... pour confectionner la peinture, on a besoin de jaune d'œuf. Et puis les chattes.
Pourquoi ?
Parce que les chattes chassent les rongeurs et que c'est très utile. Donc, et puis il y a des abeilles aussi. Mais oui, il y a eu quelques démarches, mais pas... Bon, moi après, je suis pas aussi au fait que certains lieux comme ça gardent... Vous avez parlé des secrets du mont Athos, gardent leur part de mystère au fond. Il y a eu des femmes qui ont tenté de de se déguiser pour
ah bon
entrer sur
oui,
le
Oui, on m'a parlé d'une Miss Europe qui...
D'une Miss Europe, oui, qui aurait manqué de se faire lapider. Il y a eu aussi la grand-tante ou l'arrière-grand-tante de William Dalrymple, qui est un écrivain britannique, qui a écrit ce livre qui s'intitule « À l'ombre de Byzance », où il refaisait en fait le trajet d'un moine du VIe siècle à travers toute la Méditerranée. Il allait jusqu'en Syrie, et il partait du mont Athos. Et Dalrymple m'avait raconté que son arrière-grand-tante aussi avait voulu pénétrer sur le mont Athos et elle avait été malheureusement découverte et ça avait été un petit peu chaud.
Alors quelqu'un qu'on n'a pas découvert et qui fait partie des secrets du bien caché du mont Athos, c'est vous qui m'en avez parlé, c'est Karadzic.
Mm-hmm. Exactement. Un peu ce que... le grand criminel de guerre Karadzic avait trouvé asile dans un monastère serbe qui s'appelle Hilandar. Et ça, ce sont des moines du monastère serbe de Hilandar qui me l'ont raconté, puisqu'on leur avait imposé ça. Les services secrets russes étaient de la partie. Pas des prêtres d'ailleurs, plutôt dans la hiérarchie orthodoxe, puisqu'il fallait quelques appuis pour le planquer à cet endroit. Et ces moines qui m'ont raconté ça m'ont dit que quand il est parti, puisqu'il est resté un moment donc déguisé en moine, il écrivait des poèmes, ils ont pratiqué une cérémonie d'exorcisme avec de l'encens pour chasser toute trace de sa présence. Oui, puisqu'ils n'étaient pas tous enchantés de la présence de ce criminel de guerre dans ce monastère serbe, qui est très très... j'ai adoré ce monastère.
Une dernière question, Christophe Onodibio. Croyez-vous que dans la vague plus que conservatrice qui recouvre le monde en ce moment, on va assister aussi à un retour de la littérature, de piété, de religion et de recueillement ?
Ce serait ennuyeux. Interdit à toute femme n'est pas un livre de piété, n'est pas un roman de piété. J'ai eu d'ailleurs, certains auraient voulu que je sois beaucoup plus prude et beaucoup plus hagiographique dans ma description du Mont Athos. Non, j'espère pas. C'est pas un lieu. Vous avez sur le Mont Athos d'anciens révolutionnaires, d'anciens gauchistes des années 70 aussi. Vous avez tout. Vous avez des fous, vous avez des saints hommes, vous avez des criminels de guerre, vous avez des révolutionnaires, vous avez des puits de science, vous avez des imbéciles. C'est comme notre monde, Charles. Donc, non, il ne faut absolument pas que ce... Et puis le Mont Athos n'est pas qu'un lieu de piété. Je vous ai dit, c'est un lieu de beauté. Et la beauté est chaotique.
Claire Vajoux, une Française normalienne, agrégée de lettres classiques, s'est convertie à l'orthodoxie et est devenue religieuse pendant 15 ans. Elle le raconte dans un livre intitulé « Yo ». Et voici ce qu'elle écrit, je la cite. « Si vous me croisiez dans la rue, vous ne m'adresseriez même pas la parole. Vous me prendriez pour une fanatique islamique. De fait, je suis vêtue comme elle, tout de noir, avec une robe rasant le sol. » Mon voile cache le front jusqu'aux sourcils, ainsi que les joues et le menton, ne laissant paraître du visage qu'un triangle étroit. Les yeux, le nez, la bouche. En Grèce, je passe inaperçu, puisque depuis le 5e siècle, toutes les moniales orthodoxes sont vêtues ainsi. Pourquoi une fille apparemment cultivée, pas plus idiote qu'une autre, douée d'initiative et de raison, a-t-elle été pendant 15 ans incapable de s'échapper ? Cela doit vous paraître invraisemblable, le drame, et que je ne le sais même pas moi-même. Quel que soit le lieu, toute religion est un lieu de secret. Et le mont Athos en est un comme un autre. Ogiras nous a révélé l'homosexualité, l'argent s'y cache à peine, mais les armes, le sait-on. Et qui sait s'il n'y a pas eu d'assassinat au mont Athos ? Nous ne le saurons jamais tant qu'il existera. Les choses s'y règlent dans le silence absolu et l'obscurité la plus totale, comme à l'intérieur de bien des communautés. Dans ce sens-là, les moines de l'Athos ne sont pas très différents des dirigeants du Parti communiste chinois. Que cache la barbe des prêtres ? C'est un endroit pour une histoire à la Agatha Christie. Ou peut-être une comédie. Les musulmans ont eu le Mahomet de Voltaire, les catholiques le Tartuffe de Molière. Peut-être manquent-ils aux orthodoxes pour leur plus grand bien et, en chassant l'esprit de sérieux, ne leur laisser que la gravité, une comédie. D'ailleurs, peut-être faut-il considérer le mont Athos comme un lieu imaginaire. Et à ce compte-là, ceux qui l'ont décrit le mieux seraient Henri Michaud dans Le Voyage en Grande Garabagne et René Daumal dans Le Mont Analogue. Au fond, est-ce que le mont Athos n'est pas la métaphore de toute création littéraire ? Chaque poète n'invente-t-il pas, sans qu'il ait besoin d'y aller, son propre mont Athos ? C'était Secret professionnel, le 46e. Il clôt cette première saison de l'émission, que je vous remercie d'avoir suivi nombreux. La première émission de la saison prochaine, 1er septembre, je parlerai du secret professionnel de la rentrée. Réalisation, Clotilde Pivin. Reportage, Camille Renard. Attaché d'émission, Anne de Biran. Prise de son, Bruno Mourlan. Dans un instant, Carnet nomade de Colette Felousse.